Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber. Get your stinking paws off me, you damn dirty podcast. Et mes primates sont...
Philippe Zetbon.
Attends. Tu peux le faire sans chewing-gum, s'il te plaît.
Ah merde, ouvre. Ouais. Et puis garde ton dentier.
Garde tes bottes, mais...
C'est Gibon.
Mais oui, ah ouais, c'est en plus.
Philippe Gibon.
Je voulais voir
ouais.
si tu suivais.
Voilà. Je suis.
Philippe Gibon. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des podcasts.
Francis Weber, soyez maudits, vous avez fait le podcast, allez en enfer.
Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la planète des singes, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes cinébuddies, et shout out à Laurent Houtan-Vachaud, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, pour parler de Planète des singes, Planet of the Apes, 1968, réalisé par Franklin J. Schaffner, 1968, année dominée au box-office par Le Petit Baigneur et Les Grandes Vacances. Je sens une espèce de thème là. Cette année voit également naître mon frère Gilles et Daniel Craig, qui se ressemblent énormément physiquement, comme deux gouttes de martini shaken not stirred, et s'éteindre Ramon Navarro, amant de Rudolph Valentino, et John Steinbeck, auteur des Souris et des Hommes. Aujourd'hui, des singes et des hommes, il n'y a qu'un pas. Philippe nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
Taylor, qui est un cosmonaute, arrive sur une planète avec quelques autres cosmonautes, après un accident, sa fusée a déraillé, et ils atterrissent sur cette planète très belle qui a été tournée dans l'Utah. Et ils se retrouvent au milieu d'une civilisation dirigée par des singes, c'est-à-dire des gorilles, des orang-outans et des petits chimpanzés, qui ne sont pas la grande classe, les petits chimpanzés. Et ils vont s'apercevoir qu'en fait, c'est une inversion de tout ce qu'ils ont connu, c'est-à-dire que les singes dirigent tout et sont la race dominante, et les hommes sont des esclaves, et même des fois des gibiers pour la chasse.
Bravo, merci mon vieux cinébody. Et maintenant, Francis, papa.
Oui.
Tu permets que je t'appelle papa ?
Oh, si tu crois que je suis ton père, tu peux.
Bon, alors, je t'appellerai Dr Zaius, par respect.
Oui, volontiers.
Tu vas nous parler un peu du film et de la première fois que tu as lu le livre et vu le film.
J'ai vu le film, j'ai lu le livre. Je dois dire que le livre est plus osé que le film et qu'il y a des choses fortes dedans qu'on ne pouvait pas mettre, malheureusement, sur un écran, tu vois.
Ouais.
Et notamment à notre époque, d'ailleurs. Alors, j'en cite une, par exemple. C'est que dans la cellule ou dans la prison où on met à la fois Charlton Heston et une jeune femme, elle est complètement animale.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas du tout éduquée. On n'a pas développé sa matière grise, tu vois.
Ouais.
Et elle n'est que femelle, ce qui plairait à Sandrine Rousseau. Donc, tu as cette femme qui n'a qu'une envie, c'est sauter sur Charlton Heston. Comme il est très grand, il faut qu'elle grimpe, comme un singe. Enfin, toujours est-il donc que c'était extrêmement érotique, et pas du tout de notre époque, parce qu'on ne peut pas dire des choses pareilles, tu vois.
On va être cancel aujourd'hui grâce à toi, ouais.
Non, peut-être pas, mais enfin, on peut dire que le « Sois belle et tais-toi » est admirablement applicable là, tu vois.
Ouais. Bah, c'était Linda Harrison qui jouait le rôle de Nova dans le film, et c'était la petite amie de Daryl Zanuck.
Tout ont été la petite amie de Daryl Zanuck.
Même Philippe, ouais.
Philippe, évidemment. Ouais. Il criait « c'est bon que je me rappelle.
Non, au départ, tu as un producteur, Philippe, qui s'appelle Arthur P. Jacobs, qui achète les droits du livre avant sa publication. Ça arrive souvent. Ils ont fait ça avec Les Dents de la Mer, avec Le Silence des Agneaux, je crois.
Avec Les Malheurs de Sophie.
Voilà. Et c'est le premier film de Rod Serling. Tu peux nous parler un peu de Rod Serling ?
Gigantesque auteur de télévision qui a créé la série The Twilight Zone, la quatrième dimension, et qui en a écrit la plupart des épisodes. Et c'était un auteur, en plus, il présentait chaque épisode à la manière d'Alfred Hitchcock, alors qu'il n'était pas connu du tout, a priori.
Ouais.
Il le faisait avec un tel sérieux et un tel esprit scientifique qu'on finissait par croire que c'était une sommité dans la science-fiction. Ce qui n'était pas en réalité, mais il le faisait très bien. Et c'était un auteur qui n'a pas fait beaucoup de cinéma, si je ne m'abuse. Je crois qu'il a écrit « 7 jours en mai » de Frankenheimer sur la politique américaine de l'époque.
Ouais.
Mais sans ça, il n'a pas fait énormément de films.
Et papa, tu sais qu'en fait, cette fin extraordinaire, ce twist, parce que c'est un des premiers grands twists de l'histoire du cinéma, tu peux nous parler de ce twist ? On va passer directement à la fin.
Est-ce que tu parles de la toute fin, on voit la statue de la liberté
c'est
dans
ça,
le sable ?
Exactement, spoiler alert pour un film de 45 ans. Ouais.
Oui, ça, c'est pas très grave.
Non.
Mais je veux dire, je n'ai pas très bien compris.
En fait, c'est la Terre du futur. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait exploser la bombe nucléaire.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que les singes ont remplacé les hommes.
Exactement.
Ouais. C'est peu probable. Ce serait probablement les cloportes, les cafards, ouais, les termites.
La planète des cloportes, ça n'aurait pas marché.
Non, c'était pas bon comme titre. On pouvait truquer.
Mais c'est vrai que c'est la seule chose qui reste du script de Sterling. Et c'est une des grandes fins, un des grands twists de l'histoire du cinéma, visuellement.
Comme par hasard, j'ai pas compris, tu vois. Mais...
Et c'était pas la même fin dans le livre de Boulle, tu te rappelles, non? Je regarde Jeff off caméra parce qu'il aime bien. Il a dit que c'était pas un film de Boulle, c'était un livre de Boulle.
Il est très fort.
Ah, non, il est très fort.
Très fort.
Alors, dommage qu'il n'ait pas un micro.
Il a plus une communion de libres. Hein. On l'invite partout.
Non, mais tu te rappelles donc du twist du livre de Boulle?
C'est fini, oui. Ben vas-y, dis-le.
En fait, il trouve. Ça commence par des singes qui trouvent une bouteille à la mer dans l'espace, ce qui est une belle idée.
Ah ouais.
Et en fait, à la fin, c'est plus proche du film de Tim Burton. Où il retourne sur Terre et il se rend compte sur Terre que les singes ont pris le dessus, en fait.
Alors là, je comprends rien. Moi,
non plus. Hein.
Rien.
Il faut avouer que. Même Charlton Heston n'a pas compris le film. il a détesté, d'ailleurs. Enfin, il a détesté que ça ait été aussi dur. Et quand on lui a proposé la suite, il a dit : je l'ai déjà fait.
Ouais. En plus, c'était une époque où, avant le Parrain numéro 2, où de faire une suite, c'était un truc dégradant, si tu veux. Les suites n'étaient pas terribles en général.
Tu sais pourquoi il ne voulait pas le faire ça, c'est une vraie. J'ai lu ses mémoires à Charlton Heston. C'est parce qu'il avait grossi entre les deux films.
Il ne voulait plus mettre le pagne.
Il ne voulait plus être en pagne.
Il avait deux problèmes. Il a un problème de cheveux aussi.
Ouais, oui, ça, c'est sûr.
Très grave.
Très tôt dans sa
carrière. Moi, je vais vous parler de Charlton Heston d'une façon un peu parallèle, si
ouais,
tu veux.
Volontiers.
Parce que j'étais journaliste à RTL. Et le rédacteur en chef, qui disait de moi, il s'appelait Armand Jameau, et il avait comme par hasard, comme tous les patrons de radio à l'époque, un ton faubourien comme ça, je vais te dire coco, hein, parler comme ça. Et il me dit, toi j'attends que tu sois près de la porte pour te virer. Parce que j'étais pas très bon. Et on me demande d'aller interviewer Charlton Heston, qui était de passage à Paris. Et je me demande ce que je vais pouvoir lui demander, tu vois, et tout à coup je vais au Crédit Lyonnais pour prendre... le peu qui me restait, c'est-à-dire 5 francs. Et je vois une petite jeune fille qui était à la caisse qui se préparait à aller prendre son déjeuner. Et moi, j'avais rendez-vous au George V avec Charlton Heston. Et je lui dis, parce que c'était une énorme star à l'époque, c'était vraiment la petite jeune fille, tu vois, comme ça, timide, etc. Je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'interview ensemble ? Quelle idée géniale, donc. J'étais promis directeur de RTL après.
Attends, je prends des notes. Hein.
S'il te plaît. Et on part tous les deux. Je te dis, moi, elle m'arrivait à l'épaule.
Ouais.
Et quand on est arrivé devant ce géant, parce qu'il était très grand, Charlton Heston,
ouais,
elle lui arrivait à la ceinture. Pas de plaisanterie grivoise. Hein. Ce qui fait que...
Tu nous connais.
Elle était là comme ça, elle regardait fascinée. Et j'ai dit, posez-lui une question. Elle a dit, monsieur Heston... La question, je ne me souviens pas, c'est dans le genre, il fait beau là-haut. Enfin, mais c'était touchant parce que c'était vraiment la groupie, la fan devant un personnage qui était à l'époque très spectaculaire.
Bénure, ouais, tout d'un coup, elle avait devant elle. Ouais.
Alors
ouais,
là, je vais vous bouleverser tous, surtout Francis, je pense qu'il va essuyer une petite larme. C'est que j'ai rencontré Charlton Heston une fois où ? À l'hôtel George V.
C'est pas possible.
Je te jure.
Dans quelle chambre ?
Il n'y avait, pas la petite jeune fille, par contre.
C'est dommage.
C'est drôle. Mais...
Voilà, et ensuite, j'ai vu un truc de Michael Moore, tu sais.
Ouais.
Où il était, lui, Charlton Heston, malheureusement compromis dans cette histoire de...
National Rifle Association, les flingues aux États-Unis.
Affreux,
il était activiste, c'était carrément le président de la National Rifle Association.
Et Michael Moore avait été membre de la Rifle Bachin Association, là. Quand il était tout jeune.
Ouais.
Ensuite, il avait compris que c'était une erreur, tu vois. Et il est allé interviewer, grâce à cette carte, un Charlton Heston cassé en deux, cassé en quatre, tu vois.
Très vieux, ouais.
Très vieux et probablement un peu alzheimérien, tu sais.
Je l'ai vu, là, l'interview, c'était pathétique.
L'interview était pathétique. Ouais. Parce qu'il ne comprenait pas très bien. Il croyait avoir affaire à un membre du groupe.
À un des leurs, ouais.
À un des leurs. Et l'autre a commencé à lui parler de Columbine, vous vous rappelez, cette espèce de massacre.
Bien sûr.
Et puis tout à coup, il a compris qu'il était piégé, et il est parti, c'était d'une tristesse quand il est parti.
Oui, il a eu du mal à se lever,
c'est
triste.
Mais revenons au film quand même.
Bah oui, justement, à propos d'âge, au début, ils font les essais maquillage avec Charlton Heston et Edward G. Robinson, parce qu'ils sont très amis dans la vie, et Edward G. Robinson devait faire le Dr. Zaius au départ.
Ouais,
et il finirait par faire, Edward G. Robinson finirait par faire son dernier film avec Charlton Heston, qui est Le Merveilleux Soleil Vert.
Ah oui.
Tu sais pourquoi il l'a pas fait finalement, Edward G. Robinson?
Oui, parce que le maquillage était trop dur.
c'est qu'il était claustrophobe.
Ah ben voilà,
c'est-à-dire, quand on lui a mis le masque, on lui a dit, vous ne pourrez pas l'enlever avant ce soir.
Ouais.
Il a étouffé.
Il aurait pu jouer sans masque, lui.
Mais c'est vrai que son dernier rôle, qui est son 100e rôle, qui est Soleil Vert, il était atteint d'un cancer, il était mourant sur le plateau, quasiment son 100e film. Et le moment où il passe dans ce mouroir pour finir ses jours dans le film, bah c'est un reflet de la vie. Et Charlton Heston, quand il pleure en voyant son ami qui le quitte, il pleurait véritablement dans la vie en voyant son ami qui le quittait.
Ben, je comprends.
Ouais.
Et encore, il était courageux, parce que quand il pédalait à tour de rôle pour faire l'électricité dans le film,
ouais.
J'imagine...
Ah oui, c'est vrai.
Tu te souviens de ça?
Oui, bouleversant. Dans le rôle de Saul, il lui a amené une pomme, tu te rappelles?
Ah ouais.
C'était très touchant. Mais donc, Charlton Heston deviendrait une espèce de spécialiste des films de science-fiction des années 70, un genre que j'aime beaucoup, la rétro-SF, puisqu'il fait également Omega Man en 1971, qui est une des meilleures adaptations de Je suis une légende de Richard Matheson.
Ah oui.
Ouais. Et ensuite, ce qui nous amène au casting du film, raconté par Philippe, dit Primate Damon.
J'avoue qu'elle est bien, je suis obligé de rire. Alors, le casting, bon, on a parlé de Charlton Heston, c'est un de ses plus beaux rôles, parce que je trouve que c'est un des rares acteurs avec Burt Lancaster et Kirk Douglas à jouer volontiers des salauds. Et le rôle de Taylor, c'est un salopard fini, un cynique, un amer, tout ce que tu veux.
Un misanthrope, ouais.
Un misanthrope. Quand il découvre sa petite amie morte, décomposée dans le vaisseau, il fait une espèce de vanne pourrie, mais...
Mais c'est pas sa petite amie, c'est une femme qu'ils ont emmenée avec eux comme une espèce de Ève pour repopuler la Terre au cas où ils arrivent dans un endroit désert,
mais
en
je
fait.
Crois qu'il sortait, j'ai bien compris, il sortait avec elle et l'autre lui en voulait beaucoup pour ça, l'autre...
Ah, c'est possible, ouais.
Et il a eu aucune espèce de vague remarque
humoristique. Mais ils repopulaient la Terre ensemble, alors.
C'est ça, oui, ouais. Mais c'est raté, là.
Tu dis repopuler, ça m'a surpris.
Ah bah, c'est possible, ouais.
Non, je me suis dit que c'était du vieux français. Je...
Très vieux.
Très vieux.
Très ancien.
Et donc, Charlton, ce qui est formidable dans le film, c'est qu'il est antipathique jusqu'au bout, même quand il est en victime, même quand il est martyrisé, etc. Il ne cherche pas la sympathie ou le pathos, pas du tout. Et c'est ça qui le fait survivre, en plus, le personnage dans le film. C'est qu'il ne cède jamais, il est toujours...
C'est intéressant ce que tu dis sur... la difficulté pour certains acteurs de jouer les méchants ou les vilains et l'intelligence de Schwarzenegger quand il a demandé dans...
Terminator, oui.
Bien sûr, à jouer le méchant.
Ouais.
Et Cameron, l'intelligence de Cameron d'accepter immédiatement.
Ben évidemment.
Ouais.
Et dramatiquement parlant, là je parle à Francis, je crois que tu as écrit un ou deux scénarios, il me semble.
Dans le temps, oui. Oui, je les écrivais sur des pierres, d'ailleurs.
C'est que le paradoxe du film...
Avec un petit burin.
C'est ça. J'ai des photos de toi avec ça, c'est très beau.
Ouais.
C'est que le paradoxe du film, c'est que ce méchant devient le héros par force. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'identifier à lui. C'est leur dernier,
mais
le
c'est
seul.
C'est la force du scénario. Parce que c'est... Enfin, Boulle est un génie, cela dit.
Oui, oui.
En compte, faire les films qu'il a fait...
Le livre, Le pont de la rivière Kouai.
Mais c'est magnifique.
Ouais, non, c'est extraordinaire.
Mais il y a les oreilles de jungle, non, un truc comme ça, non, il y en a...
Ah, je ne connais pas celui-là.
Je ne connais pas, non, moi non plus, parce que je me trompe de titre. Mais enfin, on sait qu'il en a fait un autre.
Ouais. Mais il y a un truc, il y a une idée de scénario dans le film, parce qu'ils sont obligés de garder ce film, ce personnage de Charlton Heston muet pendant une grande partie du film, sinon les singes se rendraient compte qu'il n'est pas tout à fait comme les autres.
C'est une mauvaise foi scénaristique extraordinaire, parce qu'il prend une balle dans la gorge.
Dans la gorge.
Donc il ne peut plus parler.
Et d'un coup, il est incapacité, il ne peut pas parler pendant une demi-heure de film.
Se la poser, c'est un rêve d'acteur, ça.
Ouais. Est-ce que c'était
pas
dans
le texte?
C'est dans le livre, ça, papa? Tu ne te rappelles pas, ça?
Ah non, parce qu'il ne parlait pas, alors je n'ai pas pu le lire.
Ouais. Un livre de Boulle. Mais. Linda Harrison, donc, elle fait Nova. Il faut parler que Ursula Andress a passé des tests pour jouer le rôle de Nova.
Ah, elle sortait nue de la mer.
Oui, comme dans James Bond. Et Roddy McDowell fait donc un des singes. Les singes sont tous formidables dans le film. Il y a Maurice Evans, Kim Hunter, qui porte cet extraordinaire maquillage. Comment il s'appelle? Chambers, le mec qui a fait les maquillages.
Rick Chambers, ouais.
Ouais, c'est le type que joue John Goodman dans Argo, tu sais. Ouais.
Et je me souviens que le studio a dit, moi, je veux d'abord voir les singes. Je ne sais pas si c'était Zanuck, non?
Ouais.
Je voudrais voir les singes pour accepter de payer un prix pareil pour le film.
Ouais.
Parce que c'est très compliqué.
Très compliqué. D'ailleurs, ils n'ont pas pu faire les dents. Alors que le seul truc de réussite dans le remake de Tim Burton, c'est effectivement les maquillages qui sont très sophistiqués sur Tim Roth.
Il y a une chose qui est fausse aussi dans le maquillage si bien fait du premier, là,
ouais, ouais.
C'est le regard.
Ouais. Oui, oui, oui.
Parce que c'est des yeux d'humains dans un visage de singe.
Absolument. C'est vrai,
c'est vrai. Il arrive au singe d'avoir un regard humain, regarde-toi.
Je me suis dit combien de temps avant qu'elle arrive, celle-là. Mais les singes à la cantine mangent par caste. C'est-à-dire que les orangs-outans sont avec les orangs-outans, les gorilles avec les gorilles.
Dans quoi, tu sais ?
Non.
Dans les grandes manœuvres de René Clair, avec Gérard Philippe et Michel Morgan, ils arrivent à la cantine, il y avait les officiers et les soldats, tu vois. Eh bien, les officiers, qui étaient des beaux figurants aussi, mangeaient avec les officiers et les soldats avec les soldats.
C'est drôle.
Tu connais la belle
histoire parce que je fais un trivia sur le film,
bien
les
sûr,
grandes manœuvres.
Bien sûr.
Ils ont invité un distributeur qui s'appelait Loureau. Rappelez-vous ce nom, on n'en parlera plus, comme disait Alphonse Allais. Il était un très vieux distributeur. Il devait avoir 112 ans, tu vois, mais il était extrêmement riche. Et ils l'ont amené dans la salle. Il était seul comme ça et tout le monde était un respect total pour lui. Asseyez-vous, monsieur Loureau, etc., etc. Et on l'assoit. Et le film commence par une sonnerie de clairon. Il s'endort, et le film se termine par une sonnerie de clairon. Il se réveille, comme ça, sur son. On lui dit, vous avez aimé, monsieur Loureau ? Il a dit, c'est bien, mais il y a trop de trompettes.
C'est magnifique.
Bon, revenons au singe.
Revenons
à Kim Hunter, surtout. Je suis en train de parler du casting, on cessait de m'interrompre,
bien sûr.
Sans arrêt.
C'est exprès.
Le pauvre. Philippe Gibon.
Donc, je parlais de Kim Hunter parce qu'elle a écrit, je crois, ses mémoires. Et elle raconte qu'elle arrivait à 3h du matin pour faire son fameux maquillage de guenon. Et donc, elle arrivait avant tout le monde. Et que toutes ces scènes avec Charlton Heston, en fait, en réalité, il ne l'a jamais vue au naturel. Et que la fête de fin de film, elle est venue lui faire la bise, il ne savait pas qui c'était.
Incroyable.
Mais c'était un maquillage très difficile à porter parce qu'ils ne pouvaient pas boire, ils ne pouvaient pas manger. Ils se nourrissaient simplement avec du liquide. Et ils étaient obligés, avec une paille, de se regarder boire devant la glace pour ne pas abîmer leur...
Et quelle économie pour la production aussi.
Ben oui, absolument. Mais c'est John Chambers, le nom du maquilleur.
John, pardon.
Ouais. Et le film est tourné en Arizona et à Malibu. Papa, tu sais, la plage finale avec cette statue de la liberté, ouais. C'est à Zuma Beach, en Californie. Donc,
qui d'ailleurs est un bon endroit pour rencontrer des singes, hein, tous ces producteurs, tous ces gens qui vont là-bas.
Mais ce qu'aimait beaucoup faire Roddy McDowall, c'est garder son maquillage et partir sur le freeway avec sa voiture et regarder la tête des gens, tu sais, qui voyaient ce singe au volant d'une voiture.
Il y a une très belle histoire, je peux faire un trivia.
Bien sûr.
Kirk Douglas jouait dans Spartacus.
C'est ça.
Et puis il devait aller à l'anniversaire de Sinatra à Vegas. Et malheureusement, il déborde. Ce qui fait dire que c'est trop long pour y aller, il est trop court en même temps. Et il dit, bon, j'y vais quand même. Et le metteur en scène lui interdit de prendre sa voiture. Et il se précipite, habillé en Spartacus, dans une limousine. Et la limousine démarre. Et à un moment donné, le chauffeur s'arrête entre Vegas et Los Angeles pour aller faire pipi ou je ne sais quoi. Et il laisse l'autre avec sa jupette et son truc dans le... Et puis, l'autre qui se réveille... parce qu'ils avaient mis la vitre entre deux, tu vois, descend et se met à marcher un petit peu comme ça, et l'autre revient et part avec la voiture. Parce que Spartacus se retrouve en Spartacus, Kirk Douglas, sur la route en train de faire du stop. Et c'est deux filles qui s'arrêtent. Tu te rends compte quelle histoire pour elles.
Superbe.
Tu sais, la fin de l'histoire, c'est qu'une des filles s'est tournée vers lui, ils l'ont fait monter dans la voiture, et elle lui a simplement dit... « Do you know who you are ?» Est-ce que tu sais qui tu es ?
Ça me rappelle l'histoire qui est arrivée à Pierre Richard. Il a rencontré un type qui l'a regardé. « C'est moi qui vous ai vu hier à la télévision.
» C'est ça.
Ça revient un peu pour le même.
Exactement.
Et je continue à trivia pour trivia.
Bien sûr.
Il a la dernière phrase de l'autobiographie de Kirk Douglas. Il raconte qu'il avait 70, 72 ans, je ne sais pas. Il marchait près de chez lui, comme ça. Et il voit tout d'un coup une voiture avec deux filles magnifiques, très jeunes, qui arrivent de l'autre côté et qui se mettent à faire « Oh, regarde, regarde !» Donc Douglas, il sent qu'on le reconnaît, il rentre le ventre comme ça, il se tient bien droit, etc. Les filles font demi-tour, arrivent vers lui et lui disent « Vous êtes le père de Michael Douglas ?»
Ce qui peut arriver, ça m'arrive tout le temps avec toi.
Mon rêve, ouais.
Bien, revenons au film.
Énorme succès critique et public. C'est le début du merchandising. C'est la première fois qu'il y a des t-shirts, des poupées, toutes sortes de trucs se déclinent autour du film. Pour un budget de 5 millions de dollars, 5,8 exactement, ils en gagnent 33. Et il y a une formidable musique de Jerry Goldsmith.
Oui, qui est presque expérimentale.
Incroyable, très moderne.
C'est incroyable.
C'est comme Alien, c'est la première fois qu'il y a des musiques comme ça qui sont beaucoup plus ambiantes et avec moins de mélodies, mais qui posent une ambiance dans le film. Et ce qui est le plus amusant, c'est qu'il dirige l'orchestre, il a tellement aimé le film, il dirige l'orchestre avec un masque de singe. quand il enregistre le...
Ça, c'est fantastique.
Jerry Goldsmith, ouais.
Je le fais toujours, moi aussi. Ouais, toi, tous les orchestres que tu as dirigés.
Retire ton masque, Philippe, s'il te plaît.
Aujourd'hui, tu peux,
tu peux
te montrer, ouais. Aujourd'hui.
Mais... Il y a... Oui. Papa, c'est à toi.
Non, je veux dire qu'il détestait véritablement l'actrice parce que c'était la petite amie de Zanuck.
Ouais.
Et que c'était un mannequin plus qu'une actrice.
Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas extrêmement émotive. Enfin, elle ne fait pas grand-chose à l'écran. Bah, mais elle est belle, ceci dit.
Oui.
Oui.
Ah bon. Philippe, 4 suites, tu les as vues, Beneath, Escape, Conquest et Battle.
J'ai pas vu Battle, c'est le dernier, j'ai craqué.
Ouais.
J'ai pas pu, mais j'ai vu les autres. La première suite, elle est pas terrible, mais bon, il y a Charlton Heston dedans. Bon, ça passe, disons, ça passe. Et ensuite, j'ai pas pu.
Il a fait un deuxième, Charlton Heston, non ?
Si, si, il apparaît brièvement dans le 2. En fait, c'est la suite directe. C'est la suite directe.
Je crois que contractuellement, il devait être obligé de faire une apparition, mais il l'a limité vraiment à quasiment un caméo.
Il n'avait vraiment pas envie.
Non, non, mais la manière de Roy Scheider dans le deuxième Jaws aussi.
Mais néanmoins, il apparaît peu dans le film. Il apparaît au début et à la fin. Et à la fin, il fait sauter la Terre, quand même.
Quand même.
Quand même.
Il se venge, ouais. Mais il y a une série télé également. Il y a un cartoon, ce qui est assez rare à l'époque. Il y a des comic books. Donc, il y a vraiment toute cette déclinaison de merchandising dont je parlais, qui est très moderne. On ne faisait pas ça à l'époque avec les films. Et donc, il y a le remake de Tim Burton. Moins on en dira, mieux c'est, parce que c'était très raté. Avec Mark Wahlberg en scientifique. C'est toujours bien, ça. Tu sais, il l'a fait encore avec Shyamalan dans un film qui s'appelle The Happening,
ouais.
Où les plantes se rebellaient. C'est particulièrement ridicule. Mais surtout, il y a les reboots avec Rise, Dawn et War of the Planet of the Apes, qui sont plutôt réussis. Cette fois-ci, les singes sont numériques. Et c'est le grand Andy Serkis qui se spécialise, parce qu'il fait King Kong également pour Peter Jackson, qui est, tu sais, avec ses espèces de petites lentilles, petites pastilles lumineuses sur le visage et son espèce de...
Qu'est-ce que ça donne un singe numérique ? C'est très réel.
Ils
c'est...
sont extrêmement bien faits, il faut dire.
Ah oui, ça c'est bien.
Ouais. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup...
D'ailleurs, petite parenthèse, on a parlé beaucoup de Spartacus, je ne sais plus pourquoi, mais dans le premier remake de La Planète des Singes avec des singes numériques, c'est quasiment un remake de Spartacus. C'est-à-dire que le singe principal qui s'appelle César,
ah oui.
C'est l'esclave qui va se révolter et soulever les autres singes contre les humains.
C'est une situation dramatique. Il m'est arrivé une situation dramatique avec Spartacus une fois, qui n'a rien à voir avec le cinéma. C'était en moment des incendies à Los Angeles.
Ouais.
Et à l'époque, je marchais beaucoup. Je voulais monter quelque part dans les collines, tu vois.
Ouais.
Et j'arrive, c'était interdit. Il y a marqué attention aux incendies, etc. On ne voit pas un incendie, on voit la fumée, mais on ne voit pas l'incendie, on ne sait pas à quel point c'est dangereux, parce que ça arrive très vite, tu vois.
Donc de rage, tu as jeté ta clope.
Donc je passe sous la barrière et je commence à marcher. Et tout à coup, je sens que c'est très dangereux. Et je descends un Pacific Palisade ou un truc comme ça, c'est-à-dire je laisse la voiture à l'arrière et je descends. Et là, je suis seul dans une ambiance alors cendreuse comme ça, tu vois. Et il y a un type comme ça. Mais très inquiétant. Ça fait partie des gens inquiétants en Amérique. Il y en a pas mal. Hein. Et il y avait heureusement un tout petit snack bar ou un truc comme ça, un peu plus loin. Et le type s'approche de moi. Il me dit « ça va ?» comme ça. Je dis « ça va ?» déjà terrorisé. Et il dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Alors je lui dis « je suis scénariste, metteur en scène. » Il dit « moi aussi. » Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait, toi ? Il me dit Spartacus.
On y revient.
Et c'est pour ça que je suis venu.
Ouais, ouais.
C'est extravagant, un type qui dit qu'il a fait Spartacus alors qu'il avait 25 ans, tu vois.
Il y avait une série télé, peut-être, qui travaillait sur la série télé ?
Pas du tout. Il travaillait dans un asile psychiatrique, donc il s'est évadé, tu vois.
Ouais.
Et moi, je me suis réfugié dans le mall et j'ai appelé tout de suite la police, les pompiers, les gardes.
La garde nationale.
Ouais. La garde nationale. Ouais. Voilà. Une histoire sans aucun intérêt, mais on peut reprendre.
Merci. Merci de l'avoir partagé avec nous. Mais John Chambers donc, passe des heures au zoo pour les maquillages. Et tu sais combien il dépense pour, pour le budget maquillage du film ?
Non.
$1 million. Comme cette émission pour ton maquillage.
Ça correspond à $20 million aujourd'hui.
Ouais, c'est énorme. Il y a 80 maquilleurs qui travaillent jour et nuit sur ces maquillages. Et comme tu dis, le film vit ou meurt par ces singes. C'est pour ça que Zanuck voulait voir au
et
début.
Si,
parce que...
Et si tu veux t'amuser un peu, comme on est un peu pervers des fois, enfin surtout vous... Il faut regarder les plans larges de la planète des singes. Tu sais, quand il s'évade à la fin, etc. Et tu regardes, il y a des têtes qui sont évidemment pas de la même qualité que celles des acteurs principaux.
Absolument,
et qui
ouais.
sont des masques affreux,
ouais.
complètement rigides. Et si tu regardes les figurants, c'est une horreur.
Ouais. Mais à cause du désert, ils crèvent de chaud, tu imagines, sous le maquillage. Et la nuit, quand vient la nuit, il fait très très froid. Donc les masques gèlent sur les visages des acteurs.
C'était un beau tournage, ça, dis-moi. J'y étais. Hein, je rappelle, moi, mon gorille mormon dans La Chèvre.
Oui, bien sûr.
Ouais. J'avais un gorille dans La Chèvre. C'était justement la chaleur qui m'a tué.
Ouais, tu l'as raconté d'ailleurs dans la spéciale sur La Chèvre.
C'est pas ça que je ne veux pas leur raconter.
Voilà.
Mais
c'était tellement dur.
J'ai déjà eu un singe dans mon film, quoi.
C'était tellement dur.
À part Depardieu.
C'était tellement dur que Kim Hunter arrivait le matin, elle s'asseyait dans la chaise de maquillage et elle prenait un Valium. Première chose qu'elle faisait.
Ah ouais,
c'est chose trop aussi.
Une droguée encore.
Ah oui, et ils font un truc, c'est qu'ils engagent des critiques de cinéma assez connues à l'époque, et ils les mettent dans les maquillages des singes, pour être sûr qu'ils vont avoir des bonnes critiques à la sortie.
C'est pas bête du tout, ça.
Très bonne idée, effectivement.
Melville le faisait aussi.
Ah ouais. Je le fais aussi sur tous mes films.
Tu sais ce qu'il faisait, Melville? Tu le fais aussi.
Ah ouais, ouais.
Melville faisait un truc, il y avait une scène dont il savait qu'il fallait la couper parce qu'elle était mauvaise.
Ouais.
Et il téléphonait à un critique, qu'il n'aimait pas particulièrement. Il disait, je voudrais vous demander un conseil, maître, etc. etc. Le ouais. type arrivait dans la salle de montage, il disait, voilà, est-ce que vous pensez que cette scène, il faut la garder? Le type, ravi de donner son autorité dans le film, il disait, non, moi, elle ne me paraît pas très bonne. Et quand il voyait le film, la scène n'y était plus. Il avait l'impression d'avoir participé au film, il faisait une très bonne critique.
Dans le film sur Alfred Hitchcock, qui s'appelle Hitchcock, avec Anthony Hopkins dans le rôle principal.
Quel génie pour le choix du titre, en tout cas.
C'est génial.
Good evening.
Et c'est une scène exceptionnelle où Hitchcock a beaucoup de mal avec la censure quand il présente Psychose.
Ouais.
Énormément, il demande des coupes par-ci, par-là, des plans, etc. Donc il n'en peut plus. Et à un moment, il est devant le comité de censure qui lui casse les burnes à un point inimaginable. Et à un moment, il dit au critique principal, au directeur, il dit « Écoutez, c'est pas compliqué, je vais vous faire une projection du film. » Donc il voit le film et il dit « Maintenant, je vous demande de venir sur le plateau. On va faire un retake de cette scène que vous ne supportez pas. Et c'est vous qui allez la réaliser. » Il dit « Vous venez lundi à 9h sur le plateau, je me mettrai à l'écart et c'est vous qui allez réaliser. » Le type a dit, à la fois très flatté et très choqué, quoi. Il dit d'accord, et en fait, il n'est jamais venu. Et donc, il n'a pas coupé son film. C'est beau, hein, comme histoire.
Ouais. C'est des belles histoires. Moi, j'en connais une dernière, je peux la dire.
Bien sûr.
C'est Gérard Lozier, qui était mon copain, et qui était un formidable personnage de bande dessinée et de scénariste aussi. Brett Escher, la dessinatrice, dit, on a tous une idée, on va participer à un film porno. Et ils étaient tout un tas de dessinateurs enthousiastes comme ça. Et le seul à se présenter au studio, c'était Lozier. Il se retrouve tout seul et les gens se précipitent sur lui en pensant qu'il était un des professionnels. On le déshabille, malheureux, tu vois. Et on le met sur une croix. Et il dit que ça a été un cauchemar. Et ensuite, il passait tout le temps le film à minuit ou à 1h sur Canal+.
Il l'a vraiment fait, alors.
Oui, il l'a fait. Ouais.
Extraordinaire. J'ai lu en termes de casting qu'au départ, ils ont proposé le film à Burt Lancaster, le rôle de Taylor. Apparemment, Charlton Heston récupérait souvent ce que Lancaster refusait à l'époque.
Même emploi, à part que Heston, je pense, était un peu moins bon acteur que Burt Lancaster.
Ce qui explique pourquoi il avait toujours. Ouais. Il arrivait derrière lui.
Heston était moins bon, c'est sûr.
Ouais. Ouais. Et j'ai lu également que John Wayne a été pressenti, Rock Hudson, James Gardner, Cliff Robertson, Stuart Whitman, et là, encore plus drôle, Marlon Brando.
Et Louis de Funès.
Rod Taylor, Steve McQueen et George Peppard.
Et Hervé Lachaise.
Vilchaise. Bravo les deux. Mais Charlton Heston a la grippe pendant le film, donc ça doit être sympa ça, de jouer ce film en pagne avec la grippe dans le désert, tu
ouais,
vois.
Ouais.
Oh my God! C'est mon Charlton Heston, il est bien.
Hein oui, pas mal.
Ça fait des jours que je travaille, des nuits.
Magnifique.
Des nuits entières.
Magnifique.
Mais Bull déteste le film. Il déteste le twist final, plus exactement.
Tu veux dire qu'il a les boules, quoi.
Voilà, bienvenue dans Kinopod. Et finalement, il finit par accepter que le twist final du film est meilleur que celui du livre.
Parce qu'on lui a donné un rajout à son honoraire.
Probablement.
Mais cela posé, je te dis, je suis totalement admiratif de Boule.
Ouais.
Parce que c'est un Français, non mais c'est vrai que c'est très difficile.
Non, je te crois. C'est juste que d'entendre Boule, maintenant, ça me fait rire.
Bah oui,
je suis un peu primitif comme garçon.
Ça tombe bien, ouais. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Alors, le film dure 1h42, c'est rafraîchissant, ça fait du bien.
Ah oui.
Aujourd'hui, il durerait 2h42, Philippe.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et donc, toujours le titre alternatif, Le Dîner de Kong, pour toi, papa. ou Banane Mécanique, comme pour toi, Philippe.
Ah, merci.
Et on a le même début qu'Alien, t'as vu, il se réveille dans des caissons de sommeil, t'as vu, c'est la même chose, je sais pas si c'est un hommage. Mais ça, c'est très bien fait. Et Charles Tennyson fume un cigare dans le vaisseau. C'est quand même dangereux, non ?
C'est vrai.
Ça en a fait sauter plus d'un vaisseau, ça.
Ouais, j'y étais, moi.
Et tout est fait, bien sûr, en réel. Il n'y a pas de numérique à l'époque. Il y a, bon, il y a des beaux matte paintings, Jeff, sur lesquels Gilles n'a pas marché. Mais il n'y a pas de fond vert, de choses comme ça. Et le crash du vaisseau, au début, est magnifiquement fait. Simplement, en se mettant à la place du vaisseau, ça tremble et ça s'écrase dans un lac. Et ensuite, ils mettent une maquette de vaisseau dans le lac. Et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de numérique pour faire un truc qui est magnifique et qui a l'air, et sur lequel la lumière rebondit vraiment. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah, c'est formidable.
Ouais. Mais il faut quand même parler de ces fameux paysages de l'Utah dont je parlais au début, qui sont quasiment la vedette du film. Quoi. C'est incroyablement beau. Tout le passage où ils sont tout seuls et qu'ils arrivent jusqu'à la scène de chasse avec les singes, c'est juste, tu as le souffle coupé et tu te crois vraiment sur une autre planète.
Oui, ouais, mais il y a tout un tas de coins en Amérique où on est sur une autre planète.
Oui, et puis comme ce sont les mêmes décors dans lesquels ils ont tourné tant de westerns, ça commence comme un western, sauf que sur les chevaux, ce sont des gorilles au début. Donc c'est très...
Ça aussi, c'est fantastique.
C'est très fort.
Fantastique.
Le premier zoom, là, quand ils zooment, tu sais, sur un type qui a arrêté son cheval et que tout d'un coup, on voit que c'est un singe, c'est un des grands chocs de cinéma de science-fiction.
Et il y a un truc qui m'a fait rire en revoyant le film, c'est qu'il y a un moment où ils se baignent, les cosmonautes, après avoir erré dans le désert à la recherche d'eau, tu vois, ils commencent à crever de soif. D'ailleurs, Charles Tennyson rallume son cigare dans le désert. Alors, quand t'as soif, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire.
Non, c'est sûr.
Mais il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'ils découvrent donc un petit lac, tu vois, et ils enlèvent frénétiquement leur combinaison de cosmonautes et ils se jettent à poil dans le lac. Et ensuite, quand ils sortent du lac, il y a toujours une espèce de plante verte devant leur sexe ou quelque chose comme dans Austin Powers, c'est pour les cacher.
Une marguerite.
Oui, exactement.
Et ils ont leur perruque mouillée, ce que m'a toujours fait rire dans les films. Tu sais, quand ils sortent de l'eau, et le Charles Tennyson et l'autre cosmonaute blanc ont des perruques, quoi, ça se voit, et elles sont un peu bouillées, mais ça n'a pas traversé, tu sais.
C'est drôle, mais tu sais que Sean Connery avait deux perruques, une quand il faisait ses scènes sous-marines dans James Bond, et une perruque quand il était allé à l'extérieur.
Est-ce que tu sais qu'il y a un film, puisqu'on fait des petites dérivations, je crois que c'est Météor, où il prend un flot de boue dans la figure Sean Connery. C'est lui qui le prenait, c'était pas un cascadeur. Et si t'es attentif, tu vois la moumoute qui s'en va.
C'est terrible, ces problèmes de cheveux pour les acteurs, cela dit.
Sauf Nicolas Cage, attention à ce que tu dis.
Ouais. il avait combien de perruques, lui ?
Nicolas ?
Oui.
Non, c'est Travolta qui a une chambre, il a une pièce réfrigérée avec 50 perruques dedans.
Ça, c'est extraordinaire.
C'est étonnant, ouais.
Il y a une perruque qui a pris froid, d'ailleurs.
qui a porté plainte.
Mais la première fois qu'on introduit, tu vois, ce personnage de Nova, tu vois, cette ravissante maîtresse de Zanuck, elle se fait attraper par des gorilles, elle se défend, elle se bat comme si elle était entre les bras de Zanuck, on a l'impression, c'est la même chose. Alors oui, le sang, Philippe, est très rouge, comme dans les western spaghetti, comme du ketchup dans les western spaghetti.
Et on en avait déjà parlé, parce que dans tous les films de ces années-là, 67, 68, 69, le sang, on dirait de la peinture rouge. Ouais. Et après, je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils savent faire du vrai sang, pourquoi ? Et en fait, je pense que c'est pour ne pas choquer. C'est-à-dire que c'est affirmé que c'est...
un sang des dessins animés.
Ouais, alors. Voilà, c'est du faux sang. Effectivement. N'ayez pas peur, c'est du faux sang, tu vois, c'est... Ouais.
Et au début, papa, le décor était énorme. Ils avaient créé toute une civilisation simiesque, avait créé Serling dans son scénario. Mmh. Et là, il le résume simplement à un village à Malibu, qui est une espèce de... c'est beaucoup plus modeste.
Pas besoin de mettre le masque là-bas.
Non.
Mais et tous les acteurs qui jouent les singes sont formidables, jouent très bien, que ce soit les gorilles, ils sont véritablement dans la peau des gorilles, ils font peur. Ils sont
mais si tu veux trouver un défaut à ce film, moi, même quand je l'avais vu très jeune, ça m'avait frappé, c'est qu'en confinant les décors dans 7-8 maisons, troglodyte, quoi, en gros, t'as pas l'impression que le monde entier est plein et envahi par les singes, tu vois ce que je veux dire ? Alors que normalement, ça doit être ça.
J'y ai pas pensé, moi.
Hein ? C'est vrai.
Ouais. Mais tu vois, c'est terrible parce qu'on les voit quand ils ont capturé ces êtres humains qui sont quasiment à l'état animal, tu vois, dont Charles Tennyson qui peut plus parler grâce à cette balle dans la gorge. ils font des expérimentations sur eux, des expériences, tu vois, et ça m'a fait penser aux nazis, ou plutôt aux naziques.
Oui, mais en même temps, c'est aussi sur l'expérimentation animale. C'est montrer que ce qu'on fait aux animaux, voilà ce que ça ferait si on faisait ça aux hommes.
C'est vrai.
C'est pas mal, je trouve, comme discours sur la condition animale.
Non, mais c'est un film qui est plein de symboles, il faut le dire.
Non,
la statue de la liberté dans le sable à la fin, c'est...
Et ce fameux plan, tu sais, pendant le procès de Charles Tennyson, où t'as les trois orang-outans qui se ferment les yeux, les oreilles et la bouche.
Ouais.
Tu sais, comme ces singes-là. Et c'est très marrant, ça. C'est
improvisé sur le plateau, ça. Ouais. Et c'est terrifiant quand il voit son copain et tout d'un coup il passe dans une espèce de musée où sont empaillés des cosmonautes, tu vois, et tout d'un coup il voit un des cosmonautes qui a été empaillé et l'autre qui arrive vers lui. Alors là, ils expliquent qu'il peut pas parler parce qu'il a été lobotomisé.
Alors, ouais.
Mais il a le crâne rasé, cette horrible cicatrice.
En tout cas, il faut noter que le copain qui a été empaillé, il est empaillé très très vite, quoi.
Ouais.
En 48 heures. Notons.
Un homme de paille.
Elle est bien, je l'aime. Ça.
Mais j'avais pas remarqué à quel point, parce que c'est 68, donc c'est en plein pendant le début du Flower Power des hippies. Et c'est vrai, cette nouvelle génération de Kim Hunter et de Roddy McDowall ne font pas confiance à l'ancienne génération d'orang-outans qui représente le pouvoir et qui représente l'establishment et le gouvernement. Et c'est véritablement un film anti-establishment d'une certaine manière.
Oui, et puis ce qui est formidable, c'est que le docteur Zaius, donc cette espèce de méchant orang-outan intolérant et fanatique, on le prend pour le salaud depuis le début, mais en même temps, tout ce qu'il dit sur l'espèce humaine est vrai.
Ouais.
Et ça s'avère vrai quand on voit la Statue de la Liberté.
Ouais.
Donc on comprend qu'il veuille éliminer Stone, on comprend qu'il ne veuille pas que l'humanité redevienne intelligente.
Ouais, c'est très malin comme,
c'est comme un singe. Ça, ouais. Mais c'est vrai que Charlton Heston est bien bâti. Mais il n'est pas très musclé, c'est curieux comme corps. Il a des longs bras aussi de singe. Et c'est pas The Rock ou Vin Diesel. Ah,
mais attention, c'était pas encore la mode.
Des stéroïdes, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est sûr.
Mais il a ce torse incroyable, on dirait un coffre-fort, son torse, tu sais.
Mais c'est affreux, parce que là, j'ai vu Ballers avec Dwayne Johnson, tu sais, la série.
Ouais.
Et on essaye de lui mettre des costumes.
Il ne faut pas.
Mais on n'y arrive pas.
Stallone et surtout Schwarzenegger avaient un petit peu ce problème aussi.
C'est caché. Ouais, c'est pas pareil, parce que là, The Rock, il a une hypertrophie effroyable qui est complètement démodée, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, on essaie de l'habiller cintré. Tu imagines, ça pète de tous les côtés.
Et je ne sais plus dans quel film, il y a un moment, il joue à un flic, mais soi-disant banal. C'est un flic dans un bureau, et t'as les personnages principaux qui viennent dans son bureau pour être interrogés, et il a une espèce de t-shirt où tu vois des bras gros comme des torses humains, tu sais, avec des veines et des machins, et ça, personne n'a l'air de remarquer.
Ben ça, c'est Schwarzenegger qui jouait tout d'un coup des agents d'assurance ou des professeurs d'école et qui était incroyablement musclé avec un accent autrichien et personne ne lui dit rien. Et en plus, il s'appelait John Smith, c'est un nom très américain.
C'est vrai.
Il y a une scène magnifique qui est dans le film et qui resterait vraiment comme presque aussi iconographique que la Statue de la Liberté, c'est quand Charlton Heston embrasse Zira, le singe, sur la bouche.
Oui, tu te souviens ce qu'elle lui dit ? Elle s'ébroue, elle fait « Vous êtes vraiment trop laid
». Ouais, ça, c'est magnifique.
Et il le trouve encore plus laid quand il se rase. Parce qu'à un moment, il se rase sur la plage et il voit ce visage nu tout d'un coup, alors qu'il avait une barbe pendant tout le film, tu vois. Et ils sont presque dégoûtés par ce visage nu.
Ouais.
C'est maintenant que je m'en souviens, parce que moi, j'ai vu le film il y a quelques années, tu vois. Alors, je n'ai pas fait mes devoirs de vacances. Je ne l'ai pas revu. Mais ayant lu le livre et ayant vu le film, je m'en souviens d'autant plus précisément que vous en parlez maintenant.
On refait l'émission demain, donc tu vas le voir ce soir et on commence à zéro. Ouais.
Non, mais c'est pas mal d'avoir simplement ces souvenirs-là, tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Je me souviens.
Ben, en tout cas, on sait de quoi tu te souviens, c'est intéressant de voir ce qui reste.
Ce qui reste, c'est... Ouais. Il y a des choses où... Par exemple, je dirais des films où je ne me souviens de rien.
Oui, beaucoup. Oui.
Tandis que là, non, il y a plein de choses.
Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur la planète des singes, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais...
Philippe a sûrement quelque chose à dire. Mais moi, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Sapiens,
ouais,
qui est pas mal fait,
ouais,
et qui nous raconte d'où on vient. Et on se rend compte qu'il a suffi de très peu de choses pour que les singes prennent le pouvoir ou pas. Hein.
Ouais.
C'est un chromosome près, enfin, je gère à peine. Par exemple, je vais vous dire une chose qui va vous épater. Néandertal était probablement plus intelligent que Sapiens.
Wow.
Et ce n'était pas du tout l'homme des cavernes. C'était quelqu'un qui était plus costaud physiquement et qui n'a pas su s'organiser.
Tu nous embouches un coin.
Et je vous embouche un coin parce qu'on parlait de la planète des singes.
Non, mais c'est...
Hein, c'est, que on,
c'est à propos.
On,
ouais.
On a vraiment des cousins, par exemple les bonobos et les chimpanzés.
Certains plus que d'autres, Philippe, non?
Je préfère rester quoi.
Ce sont des cousins très proches, tu sais. Hein, regarde dans ta famille, regarde partout. Mais en tout cas, oui, c'est un des souvenirs, moi, pour moi, qui est un très beau souvenir, la planète des singes.
De cinéma, ouais.
Ouais.
Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la zone interdite. On se retrouve dans quelques jours pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Si vous voulez voir la vidéo du show, rendez-vous sur Abracadapod sur YouTube. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
Philippe Sedbon.
Francis Weber, qu'est-ce que c'est que ce singe là?
Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast des singes. Et maintenant, oh my god!
C'est une imitation de Robert Dalban.